RFI.
Chacun doit compter sur soi-même, on ne peut plus compter sur le gouvernement parce que plus on compte sur le gouvernement, plus on est déçu. Et quand on est déçu, on est découragé et on est abattu. Donc pour ne pas rester abattu, on se dit bah, on va se lancer, même si c'est coûteux, même si c'est comment, on peut le faire. Comme on le dit, Paris n'a pas été construit en un seul jour. Petit à petit, avec 100 francs, 200, on va attacher la ceinture, on va dormir aussi affamé pour ne serait-ce qu'avoir de l'électricité.
Grand reportage.
Le Tchad à l'heure électorale. Élection présidentielle le 6 mai, la fin de 3 années de transition quand Mahamat Idriss Déby a pris le pouvoir juste après la mort de son père en avril 2021. Il avait promis la réconciliation nationale, des élections transparentes et des réformes socio-économiques. Alors, ces 3 années ont-elles été bénéfiques pour le pays? Quel bilan les Tchadiens tirent-ils de ce processus? Transition au Tchad, promesse tenue ou trompe-l'œil? C'est un grand reportage de François Mazet.
La saison caniculaire brûle N'Djamena. Ce dimanche après-midi de début mars, le mercure affiche 45 degrés lorsque nous arrivons au quartier Madagascar de Walia. Dans son petit salon, Kono nous accueille avec le courant d'air bienvenu du ventilateur.
On est tranquille, il fait chaud, mais au moins c'est la nuit, on a la lumière. On a le ventilo, donc on est tranquille par rapport aux autres qui n'en ont pas.
Ce petit confort, ce professeur de karaté ne le doit qu'à lui-même. Il a longuement économisé pour une installation solaire qui lui permet l'autonomie.
L'électricité chez nous, c'est déjà un luxe. C'est pas facile d'y en avoir. Même si tu as l'électricité, ça veut dire que la fin du mois, par exemple, on te donne une facture où tu n'arrives même pas à payer et tu n'as même pas les jus encore. Donc le mieux, c'est d'avoir les panneaux, tu es tranquille. Comme chez nous ici, on a le soleil qui est là 24 heures sur 24. C'est difficile d'avoir l'argent. Il faut d'abord travailler aussi pour avoir l'argent. Ici, vous savez que chez nous, le travail même là, c'est pas facile d'en avoir. Et il s'agit d'économiser. Il faut beaucoup de temps pour économiser, avoir cette somme-ci. C'est pas facile, mais s'il y a l'argent, je pense que si tout le monde peut faire comme ça, ça serait une bonne chose.
Merci. Hein. Il va venir.
Au milieu de la rue, des poteaux et des câbles électriques posés voici plusieurs mois par la Société nationale d'électricité. Les riverains ont cotisé pour l'installation, mais toujours pas de courant, nous explique Jacques. Le neveu de Kono habite juste en face.
C'est les jeunes du quartier qui ont d'abord initié de cotiser pour pouvoir en profiter de l'électricité, car c'est un objet de luxe et nous souffrons énormément. Les coûts des panneaux sont élevés et il faut aussi profiter. Donc les gens se sont cotisés, 20 et quelques millions. Donc voilà, vous voyez, c'est installé. Les câbles sont passés, mais jusque-là, la SNE n'est pas encore revenue pour pouvoir donner la connexion dans chaque concession. 3 mois, nous sommes décarcassés pour avoir des dizaines de millions, faire passer des dizaines de poteaux et nous sommes encore sans jus.
Monsieur Omar, ça va ?
Alors que la chaleur arrive, les délestages frappent la ville. Dans certains quartiers, pas de jus pendant une semaine, deux, voire plus. Le gouvernement promet depuis des années des améliorations. Mais Jacques, lui, n'y croit plus. Le problème de l'électricité est selon lui le reflet de l'état du pays. Avec ses petits boulots, il s'est offert un panneau, comme son oncle. Mais pas encore la batterie qui permettrait à cet étudiant de bûcher ses cours après le coucher du soleil.
Les études, il faut aussi faire des recherches à côté, il faut aussi rédiger des devoirs, il faut faire des traités, des exposés. Et l'électricité, c'est un luxe, comme on l'a dit, c'est pas facile d'avoir de l'électricité et c'est pas en journée. Même à l'université, il n'y a pas de l'électricité. Donc l'ordinateur, tous les jours, il faut amener un 100 francs, 200, le charger à la cabine, ça devient trop coûteux, trop pesant pour moi. Je me suis dit, bah, avec les petits travaux que j'ai fait à côté, il faut que j'économise pour pouvoir ne serait-ce que me trouver un panneau solaire. Quand je suis à la maison, je peux brancher comme je l'ai branché, vous le regardez, je positionne là, je peux travailler, je travaille dessus tranquillement. Et maintenant, la nuit, je suis sans électricité, je suis obligé d'aller me débrouiller le lendemain, ainsi de suite, en attendant d'économiser pour que l'argent puisse arriver à ce que je puisse acheter une batterie.
Mais ça montre que chacun doit se débrouiller pour soi-même et qu'il ne faut pas compter sur l'entreprise publique ni sur l'État, quoi.
Effectivement, chacun doit compter sur soi-même. On ne peut plus compter sur le gouvernement parce que plus on compte sur le gouvernement, plus on est déçu. Et quand on est déçu, on est découragé et on est abattu. Donc pour ne pas rester abattu, on se dit bah, on va se lancer, même si c'est coûteux, même si c'est comment. On peut le faire. Comme on le dit, Paris n'a pas été construit en un seul jour. Petit à petit, avec 100 francs, 200, on va attacher la ceinture. On va dormir aussi affamé pour ne serait-ce qu'avoir de l'électricité.
L'électricité qui n'arrive pas, les puits non forés, les canalisations d'eau trouées, le bitume qui s'arrête à la sortie de la ville. Les doléances de la population n'ont pas changé malgré les promesses de la transition.
J'arrive à travailler avec ça en fond toute la journée, là.
Ouais.
Les grèves s'enchaînent, des professeurs mal payés, le litre de super qui bondit de 40%, et des jeunes sans emploi, notamment de nombreux diplômés sortis d'amphithéâtres toujours plus bondés en raison de la démographie et qui souvent se débrouillent comme mototaxi. Des clans d'eau, en argot local, nous raconte Hamza, à l'arrière de l'association dont il est bénévole et où le générateur tourne en continu.
Il y a beaucoup de jeunes qui font des clans d'eau, on les appelle communément des clans d'humains, tout ce qu'il faut. À part ça, même au marché, il y a les jeunes diplômés qui font les activités communément appelées les gondia, les ventes des friperies, tout ça. Ils font ça au marché et c'est partout comme ça. Et ce sont des diplômés, même ceux qui ont obtenu des bourses avec l'État, tout ça, ils sont allés peut-être au Cuba faire la médecine, tout ça. Maintenant, ils sont au quartier en train de chômer. Donc voici tout ce qu'il faut. Même les énarques, hein, entre les chômeurs, on a vu ça beaucoup. On avance 2 jours, on recule 3 jours, et c'est le Tchad. L'État nous a lancé un programme 50 000 emplois. Et les 50 000 emplois, quand tu n'as pas un parrain, tout ça, on ne peut pas te donner. Nous tous, on a écrit le projet, on a déposé, mais comme on n'a pas de parrain, on n'appartient pas à des partis politiques un peu instables dans ce pays, tout ça. Donc c'était compliqué. On est là encore, on entreprend au quartier comme ça. Mais c'est difficile, l'entrepreneuriat même est difficile ici au Tchad. Tant que tu n'as pas un réseau autour de toi, ce n'est pas facile. C'est les amis, les frères, les cousins, c'est eux qui viennent payer ta marchandise.
La fonction publique ne peut intégrer tout le monde, le népotisme prime et le secteur privé est trop faible. Malgré son master, Hamza s'est résolu à changer de voie pour lancer une entreprise de sérigraphie avec l'aide de son oncle. À l'heure de tirer le bilan de la transition, il se veut sévère.
Ils ont promis intégrer des jeunes, on n'a pas vu. Ils ont promis de financer 50 000 projets, on n'a pas vu. Ils ont promis électrifier N'Djamena, le Tchad, tout ça, on n'a pas vu. Ils ont promis essayer de voir la situation socio-économique du Tchad, tout ce qu'il faut. Mais maintenant, avec la cherté du carburant, vous avez vu vous-même. C'est très compliqué. C'est très compliqué en tant que jeune surtout. Mais s'il y a un bilan, franchement, dans les 100, nous, on peut dire c'est simple. Tout ce qu'ils ont dit, c'était juste nous balayer, quoi, les mains des revers, et puis gérer leur transition et faire ce qu'on appelle la succession dynastique en quoi.
La succession dynastique, c'est le terme qu'emploient depuis 3 ans les opposants les plus farouches à la transition. Selon eux, cette période n'avait dès l'origine qu'un but, permettre sans heurts le passage du pouvoir d'Idriss Déby à son fils Mahamat fin avril 2021. À la mort du maréchal, la contestation avait été étouffée. À cette époque, j'avais rencontré Merci, active dans un mouvement de jeunesse appelé Le Temps. Depuis, l'horloge a tourné, mais rien n'a changé, dit-il.
C'est ce qu'on a toujours dit au peuple, très haut et très fort, que la communauté internationale et le gouvernement de la transition est en train de juste faire un jeu pour s'installer, s'enraciner définitivement. Et voilà le résultat en fait. Avec la déclaration du président Mahamat Idriss Déby Itno qu'il va se présenter à l'élection. Ce n'était pas ça le projet en fait. Le projet que le peuple tchadien attendait, c'est de changer le pouvoir, donner à un civil. Mais ce n'est pas le cas.
Il y a beaucoup de gens qui étaient à l'époque avec vous, des politiques, des militants. Eux, ils sont rentrés dans la transition. Ils ont échoué ou ils ont été trompés? Comment est-ce que vous voyez ça?
Je dirais que c'est la naïveté. Parce qu'ils savent très bien que la tête ne va jamais à fléchir devant les décisions qu'eux, ils proposent. Mais par contre, tu acceptes d'être dans la transition, c'est d'accepter tout ce qu'on te dit. Un plat préparé, tu manges. Et c'est ça, en fait, le jeu là-bas. Et voilà, c'est clair.
Vous avez dit, c'est un plat préparé, tu le manges. Est-ce que les élections qui approchent, c'est un plat qui est préparé et que les Tchadiens vont devoir manger?
Pas tous les Tchadiens. Et moi, je dénonce, je dis, je ne mangerai pas ce plat qui est déjà préparé pour continuer la dynastie au Tchad.
Parce que ce processus électoral, vous lui accordez aucune confiance?
J'en doute très fort et je ne fais pas confiance à ce processus électoral. Le calendrier est accéléré. C'est comme quelque chose qui est prémédité, en fait. Et c'est comme au début on l'a dit, on a toujours combattu la dynastie, on a combattu toujours la malgouvernance jusqu'à ce qu'aujourd'hui Mahamat Déby devient président. Et voilà, il a dit sur le plan international qu'il ne sera pas candidat. Il est devenu aujourd'hui candidat, il est proclamé, il dit qu'il est le choix du peuple. Mais il s'agit de quel peuple et quels sont ceux peuples qui sont en train de moisir? Mais le peuple tchadien n'est pas fatigué aujourd'hui. Mais la fatalité est restée après les événements de 20 octobre. La plupart des jeunes sont devenus pas actifs parce qu'ils ont peur de voir encore ce sang couler. On ne peut pas encore vivre ces événements vraiment encore pour la deuxième fois. mais on aimerait changer les choses pacifiquement pour que cette alternance vienne par le peuple.
Le 20 octobre 2022, des manifestations avaient été durement réprimées, faisant des centaines de victimes. Le 28 février 2024, l'opposant Yahya Diallo a été tué dans une intervention controversée de l'armée. Mais si elle a usé du bâton, la transition tchadienne a aussi su se servir de la carotte. Nombre d'opposants y ont participé. Saleh Kebzabo et Succès Masra ont été premiers ministres. Ce dernier sera même candidat à la présidentielle. La conclusion d'une série de pourparlers et de tractations. Un accord signé à Doha, au Qatar, en 2022, a ainsi permis le retour au pays de plusieurs figures des rébellions, comme Mahamat Nouri ou les frères Erdimi. Jeune intellectuel, porte-parole en Europe du CCMSR, un des principaux groupes basés dans le sud libyen, Gassim Cherif a bénéficié de cet accord. Il est devenu parlementaire de la transition. Dans le salon de sa maison de location, il salue des avancées indéniables, dit-il, sur le plan de la réconciliation.
Le bilan général est globalement positif. Les conditions dans lesquelles le président Mahamat est arrivé au pouvoir, on le sait. C'était ce qu'il fallait faire, parce qu'il fallait assurer la sécurité des institutions, la sécurité des Tchadiens. Mahamat a été coopté, choisi par ses pairs. Et on peut estimer que c'est une continuité, mais moi, je suis dans les faits. Dans les faits, c'est que c'est un président qui a la main tendue, qui a permis le retour des politico-militaires, le retour des opposants politiques comme Masra et d'autres. Et on ne peut pas imputer tout le mal du Tchad à Mahamat. Il a hérité d'une situation très complexe, très difficile. Et une transition, par définition, n'est pas là pour résoudre tous les problèmes. Le défi du président Mahamat et de la classe politique, c'est de poser les jalons d'un Tchad nouveau, ce que le président Mahamat appelle la refondation. Et ça nécessitera du temps et des efforts de part et d'autre.
Selon vous, ceux qui disent que cette transition, ça a été une simple pirouette pour assurer la succession dynastique, ils ont tort?
Ils ont tort, oui. Ils ont tort dans la mesure où il faut d'abord accorder les bénéfices du doute au président Mahamat. Et il a entamé un processus. Par exemple, si nous prenons l'accord de paix de Doha, il n'est pas encore achevé. Donc moi, je pense qu'il faut lui donner la possibilité d'achever le processus qu'il a commencé. Il y a des défis énormes qui nous attendent, nous, Tchadiens. Et je pense qu'il faut lui donner la possibilité de continuer ce travail-là. Il est limité par la Constitution à deux mandats non renouvelables.
Est-ce que tous les efforts qui ont été faits sur les questions de stabilité, réconciliation, etc., est-ce que ça n'a pas freiné aussi toutes les promesses qui n'ont pas pu être tenues sur d'autres plans, notamment socio-économiques?
Oui, il y a des choses à faire sur le plan socio-économique, ça c'est indéniable. La question de la réconciliation, les avancées politiques ont pris trop de place, parfois au détriment des attentes urgentes, je dirais, sur le plan de la santé, de l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. C'est des chantiers énormes qu'il faut entamer dès maintenant. Ce qui fait que le Tchad est en retard sur le plan économique et social, en grande partie, c'est aussi à cause de ces guerres fratricides successives qu'on a eues depuis toutes ces années.
Gassim Cherif a rejoint la coalition qui soutient la candidature de Mahamat Idriss Déby à la présidentielle du 6 mai. Pré-dialogue de Doha, dialogue national inclusif et souverain, dit Denis, accord de Kinshasa avec Succès Masra, référendum constitutionnel, mise sur pied de l'autorité électorale, réhabilitation du Conseil constitutionnel. Tout cela en assurant la stabilité aux frontières et en faisant face à l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés soudanais. À l'heure du bilan, le ministre de la Communication, Abderrahmane Koulamala, se satisfait de l'essentiel du travail accompli.
Quand je jette un regard lucide sur tout ce que nous avons connu, cette transition a été une transition longue, trop longue, parce que nous avons supporté sur nos épaules les périls qui menaçaient notre pays. Sans fausse modestie, nous avons bien géré cette transition, parce que nous avons rendu cette transition stable. Nous avons tenu tous nos engagements, permis aux politico-militaires de participer largement, très largement, au processus de transition auquel ils ont apporté beaucoup. Nous avons mis en place un gouvernement dirigé par un opposant. Et aujourd'hui, le 6 mai, nous allons faire l'élection présidentielle qui sera le summum, en tout cas, de cette volonté inébranlable de retour à l'ordre constitutionnel.
Il y a quand même eu des soubresauts le 20 octobre 2022. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
Vous imaginez qu'un pays comme le Tchad, qui a connu plus de 50 ans de guerre civile, des déchirures, des circulations incroyables d'armes de guerre dans le pays, que nous ne maîtrisons toujours pas d'ailleurs, vous pensez vraiment que ça va être un long fleuve tranquille? Nous n'avons jamais cru que nous avions une baguette magique, mais nous avons compté sur des femmes et des hommes déterminés à ramener l'ordre dans leur pays. Le 20 octobre a été un drame, vous le rappelez, mais l'un des acteurs dirige aujourd'hui la transition au Tchad, dirige le gouvernement de la République. Les événements récents du 27 et 28 février sont des événements, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, c'est un drame. Chaque fois que des Tchadiens meurent, c'est un drame. Chaque fois qu'un acteur politique de premier plan meurt, c'est un drame. Mais ce n'est pas de notre fait. Nous ne pouvons être comptables que de la transition que nous avons menée depuis 3 ans. Comment voulez-vous qu'on puisse rétablir la sécurité, la paix, faire des élections et résoudre tous les problèmes? Vraiment, c'est un travail extrêmement colossal qui est face à nous. Donnez-nous du temps.
Au début du Ramadan, Mahamat Idriss Déby a demandé le pardon et la patience. Malgré nos efforts, nous n'avons pas pu rendre disponible l'eau et l'électricité, a reconnu celui qui sera largement favori d'une élection dont les conditions d'organisation demeurent contestées. L'autorité électorale et le Conseil constitutionnel ont été formés autour de caciques de l'ancien régime et de l'ex-parti au pouvoir. Alors ce processus est-il complètement verrouillé?
Non, nous on fait une interview.
Le politologue Remadji Wanati, chercheur à l'International Security Studies, s'interroge.
Je pense que de manière générale, cette transition a représenté 2 choses pour les Tchadiens. D'un côté, un espoir de changement, de voir justement cette transition déboucher sur un Tchad comme annoncé, réconcilié, refondé. Et de l'autre, on a observé tout au long de la transition un autre camp qui était plutôt agrippé à conserver des acquis. Donc c'est plus ou moins la vieille classe constituée de l'ensemble des cercles qui ont entouré le pouvoir de Déby père. Et donc on a vu une opposition de vision autour de cette transition entre ces deux camps-là. Comme beaucoup d'observateurs l'ont déjà vu et comme cela a été analysé tout au long du processus, le Denis n'a pas été aussi inclusif que prévu. Et donc avec un Denis considéré comme un moment fondateur de cette transition, si le Denis n'a pas été inclusif, justement ça veut dire qu'il y a beaucoup en fait, d'aspirations de beaucoup de Tchadiens, notamment ceux qui ont appelé au boycott de ce dialogue, de ceux qui n'ont pas été partis à l'accord de Doha, etc. L'ensemble de la voix de ces parties importantes de la société tchadienne n'ont pas été considérées dans le Denis. Donc déjà, un problème avec l'inclusivité de ces dialogues. On a aussi regardé en fait un processus référendaire qui a aussi été aussi clivant que le dialogue. Et aujourd'hui, donc, la dernière touche, comme je le disais, c'est la machine électorale mise en place. Avec la machine électorale mise en place, on voit définitivement que justement, le camp des acteurs qui voulaient maintenir en place un système qui conserve leur acquis a une fois de plus triomphé. On a une nouvelle constitution, c'est certainement la 5e République, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes au début de cette transition étaient sur la table qui restent patents.
Le gouvernement dit 2 choses, sur la stabilité du pays, promesse tenue, et sur l'organisation des élections, promesse tenue. Ce n'est pas le cas.
Mais justement, vous savez, il y a plusieurs manières de regarder la chose. On peut avoir une approche globalement quantitative de la chose, et donc effectivement, une machine électorale est mise en place, et les élections vont se tenir avant la fin, donc la date de la transition étendue. Donc quantitativement, on a coché en fait les cases. Mais la nature de ces élections, en termes de crédibilité, de transparence, de participation et d'intéressement des Tchadiens à la chose électorale, vous savez, il est aussi important aujourd'hui de sortir en fait de cette conception un peu minimaliste de la stabilité. Qu'est-ce que la stabilité de manière générale? La stabilité, ce n'est pas seulement la capacité d'un État à faire face en fait à des périls. La stabilité s'ancre aussi, si vous voulez, sur la paisibilité de la vie quotidienne entre les Tchadiens. Et je pense que sous cette transition, des aspects comme les conflits intercommunautaires n'ont jamais baissé. Nous avons vu les événements du 20 octobre qui sont aussi un élément qui ont touché à la stabilité de ce pays. Et nous avons vu les derniers événements politiques, n'est-ce pas, qui se sont déroulés et qui ont aussi été relativement sanglants. Donc au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut dire oui, peut-être aujourd'hui le Tchad est peut-être plus capable que beaucoup de ses voisins de faire face à certains des périls macro-sécuritaires, mais il y a au niveau de la vie quotidienne des Tchadiens beaucoup d'éléments qui font que la stabilité reste relative.
Malgré les critiques sur le processus électoral, une 20aine de candidats ont déposé leur dossier au Conseil constitutionnel en vue de participer à la présidentielle du 6 mai prochain.
Transition au Tchad, promesses tenues ou trompe-l'œil, un grand reportage de François Mazet, réalisation Victor Hull.